Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato
Nous
Show.
Nous recevons Emma Oudiou, ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme, qui a mis en ligne gratuitement sur YouTube le documentaire Suite sur les violences sexuelles dans son sport, dans l'athlétisme, dans le sport de Maryse. Bonjour Emma.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Salut Emma. Donc l'athlétisme, c'est accessible gratuitement, je le redis, parce que le but est bien sûr de faire connaître ce que tu dénonces, ce que tu montres en tout cas dans ce documentaire qui s'appelle Suite, pour faire écho au classement sans suite, je
Exactement.
Suppose, de certaines plaintes.
Hein. Ouais, c'est ça.
Alors, le documentaire est construit de manière très simple. Ce sont des témoignages de femmes. En l'occurrence, elles sont cinq, mais tu aurais pu en mettre d'autres, car tu as eu d'autres retours. Victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur pratique d'athlétisme, c'est ça qui fait le lien hein, dans toutes ces histoires. Dis-nous simplement, pourquoi ce documentaire? Comment t'es venue l'idée?
Malheureusement.
De le faire.
Malheureusement, parce que j'ai moi-même été victime de violences sexuelles dans le milieu de l'athlé. Donc j'ai déposé une plainte en 2018 contre un coach national. Une plainte qui a été classée sans suite. Et j'ai décidé petit à petit d'en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et en parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes qui venaient me parler de ce qu'elles avaient subi, notamment dans le milieu de l'athlé, étant donné que c'était mon sport. J'ai fait du haut niveau dans ce sport-là pendant 10 ans. Et donc elles venaient me parler et j'en avais marre en fait de simplement pouvoir leur répondre que j'étais de tout cœur avec elles et d'avoir vraiment ce sentiment grandissant d'impuissance. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un docu. Donc j'ai fait un appel à témoins, j'ai mis en place une cagnotte sur les réseaux sociaux pour pouvoir financer ce projet et on l'a lancé en janvier et là il vient de sortir lundi dernier.
Alors donc il y a ces 5 témoignages avec un point commun, c'est-à-dire que les témoignages mettent en lumière des relations de domination, notamment psychologiques, entre entraîneurs et athlètes, mais pas uniquement, également dirigeants. Il y a un témoignage d'une des femmes qui est accablant sur un président de club notamment. Est-ce que tu as l'impression que c'est propre au sport de haut niveau et propre à la relation entraîneur-entraîné?
Alors je pense que c'est des violences qui se retrouvent dans toute la société. On entend de plus en plus de ces révélations dans tous les milieux. Mais je pense quand même que le milieu du sport, et d'ailleurs il y a plein d'études qui le montrent, le milieu du sport est quand même particulièrement propice à ce qu'il y ait ce genre de violence pour plein de raisons différentes. Parce que quand on rentre dans le sport, on est très jeune, donc ces systèmes de domination sont d'autant plus faciles à mettre en place. Il y a, quand il s'agit d'entraîneur, c'est hyper facile pour l'entraîneur que l'athlète ait une confiance aveugle. Donc on se méfie pas, on fait confiance et il y a très facilement des violences qui se mettent en place. Et tu l'as très bien dit, il y a des violences psychologiques, il y a des violences sexuelles. En fait, les violences sexuelles ne sont absolument pas isolées de plein d'autres violences. Il y a la maltraitance également à l'entraînement qui permet petit à petit de mettre ces violences sexuelles en place.
Alors tu le dis à un moment, juste un moment là-dessus, après je donne la parole à Maryse. Explique-nous ce que c'est la culture du doloris dans l'athlé, qui permet en fait la réalisation de certaines violences sexuelles.
Ouais, donc le dolorisme, c'est un concept dont parle notamment Béatrice Barbus dans un de ses livres sur le sexisme dans le milieu du sport. Et en fait, c'est cette culture, cette valorisation de la douleur et de la souffrance. Et le problème de cette valorisation-là, c'est que l'athlète se retrouve dans une situation où mettre des limites sur ce qu'elle accepte ou n'accepte pas de la part de son coach ou de la part du milieu du sport, ces limites sont hyper floutées.
Parce que plus je souffre, plus je serai forte.
Exactement, c'est totalement cette culture. Et donc, une fois que les violences sexuelles arrivent, qu'est-ce que je fais en tant qu'athlète? J'accepte, j'accepte pas. On m'a toujours appris que mon corps était là pour endurer et ça facilite grandement ces violences sexuelles.
Emma Oudiou, donc avec nous dans le Super Moscato Show. Le documentaire s'appelle Suite et il est en accès libre sur YouTube. On parle de violences sexuelles dans l'athlétisme. Maryse.
Oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je le dis souvent, j'ai une haine absolue du no pain no gain qui est souvent une entrée vers la maltraitance dans le sport. En plus, on sait très bien se faire mal. J'allais dire qu'on finit une séance, plus on a mal, plus on se dit ah j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin qu'on en rajoute là-dessus parce que effectivement, pour atteindre le haut niveau et particulièrement dans des disciplines comme celle d'Emma qui pratiquait le 3000 mètres steeple, le 2000 mètres steeple, 3000, la souffrance elle est quasiment permanente parce que pour gagner des paliers, pour progresser, on va avoir des séances qui sont extrêmement dures. Et donc, si on a une psyché qui est un peu fragile, ou tout simplement une psyché sur laquelle règne quelqu'un de tout puissant depuis pratiquement l'enfance, puisque pour certaines, on commence, alors dans les sports à maturité précoce, c'est encore plus vrai. On peut commencer à 6-8 ans, notamment en natation, en gymnastique, en tennis, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Mais tout d'un coup, effectivement, on a une confiance absolue dans le guide qui apparaît comme la figure paternelle ou maternelle, puisqu'il y a aussi des femmes entraîneurs, bien sûr. Et c'est vrai que l'histoire d'Emma m'a beaucoup touchée, pour les mêmes raisons qu'elle-même a été touchée par les jeunes femmes auxquelles elle a donné la parole. C'est que ça arrive depuis toujours. Je suis très émue. Quand j'ai vu son film, j'ai pleuré tout le temps quasiment. Mais je suis très émue parce que je me rends compte qu'en fait rien n'a changé. C'est-à-dire que on est dans une situation, et elle le montre très bien dans son reportage, où aucun nom n'est cité pour diverses raisons, essentiellement parce que beaucoup d'affaires sont encore en cours et parce qu'il faut pas risquer la diffamation. Elles ont déjà fait assez de boulot comme ça, je trouve, pour dénoncer. Mais en fait, on se rend compte que ce qui est primordial, c'est la prise en compte des victimes. Et je parle même pas de la libération de la parole, puisque on est dans cette phase de libération, mais la prise en compte. On a beaucoup parlé avec Emma Or, et c'est la première fois en fait qu'on s'est rencontrés. Ça a été au film, alors qu'on échangeait depuis longtemps, on se suit depuis longtemps.
Sur Instagram.
Mais c'est vrai que en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais, mais jamais, de suite donnée après la plainte déposée.
C'est un énorme problème. Qui transpire de ce témoignage.
La communication.
Les plaintes sont très rarement suivies des faits, en fait.
Et même quand elles sont suivies des faits, il n'y a pas forcément de retour. Par exemple, quand il y a un signalement qui est fait à la fédération, moi, en tant que présidente de club et entraîneur, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des signalements, et des signalements graves. Un an après, quand tu dis, oh, alors, comment ça se fait? J'ai pas de retour. Si moi, j'en ai pas, la victime non plus. Ah oui, non, mais en fait, on va vous écrire, mais pour l'instant, c'est pas traité pour tel. En fait, la victime n'a pas de réponse.
Comment on l'explique, ça? Pourquoi il n'y a pas de suite beaucoup plus concrète et rapide?
Je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore suffisamment sensibilisé à tout ce qui se passe, que nos dirigeants, que ce soit au niveau des clubs, au niveau de la fédération, peut-être même au niveau du ministère, ne prennent pas suffisamment ce qui se passe pour les victimes de manière sérieuse. C'est-à-dire que on le voit aussi dans le documentaire. Il y a donc toute la première partie où les filles parlent concrètement de ce qu'elles ont vécu en tant que violence sexuelle, et ensuite il y a une deuxième partie qui s'appelle Vivre avec, où on voit toutes les conséquences qu'il y a pour ces victimes, qui sont absolument terribles. Il y a des victimes qui peuvent souffrir de dépression, elles sont traumatisées. Si elles ne sont pas, si tout ça n'est pas traité d'un point de vue thérapeutique, elles peuvent traîner ça pendant des années. Donc c'est des choses qui sont extrêmement graves, et il faut que les dirigeants le prennent en compte, et qu'ils prennent aussi en compte en quoi eux participent à ces violences.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène, Emma, toi qui travailles là-dessus, mais pas de manière, comment dire, pas dans un cadre scientifique en tant que victime et en tant qu'être humain, as-tu une idée de l'ampleur du phénomène?
C'est difficile. Moi, je sais que, par exemple, pour ce documentaire-là, j'avais 15 à 20 jeunes femmes qui étaient quand même prêtes à parler.
Sur un appel à témoins.
Voilà. J'en ai sélectionné 5 pour plein de raisons différentes, mais j'en avais 15 à 20 qui étaient prêtes à parler, donc c'est terrible.
On avait travaillé avec Maggie Nestouré, parce que pendant un temps très bref, nous étions rentrés au comité éthique de la Fédération avant de poser notre démission, parce qu'on trouvait que on n'y avait pas notre place, on voulait travailler uniquement sur le plan de la victime. Or, les fédérations, elles sont un peu démunies, donc elles font beaucoup de plans, aussi bien les fédérations que comité olympique, que ministère, des plans de prévention, des plans de communication, des plans de formation sur l'éthique, etc. Mais moi, je dis, et la victime, on en fait quoi? Et on avait fait une petite étude avec Maggie, mais sur un nombre beaucoup plus large d'athlètes, c'était de l'ordre de 2/3 femmes. Et quelques hommes aussi. Et alors, chez les jeunes hommes, donc dans les sports à maturité précoce, c'est le même rapport, hein. Attention, hein.
Emma Oudiou, donc dans le Super Moscato Show, si on veut finir sur quelque chose d'un peu plus positif, est-ce que toi tu perçois des solutions, en tout cas des actions, afin que le phénomène soit endigué tant qu'il est possible de le faire?
Déjà, je trouve que ce documentaire-là en soi est une réponse aussi, parce que ça vient du bas, c'est des femmes qui décident de parler. On voit sur les réseaux sociaux le nombre de soutiens qu'on a eu, c'est phénoménal. Et après, en solution, je pense que il y a vraiment tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation à ces violences-là, que ce soit au niveau des encadrants, mais également au niveau des athlètes, leur dire ça, tu n'as pas à le subir, ça représente une violence, et donc tu as le droit de refuser.
Emma, merci beaucoup. Vincent, ouais.
c'est quoi la solution? C'est que les femmes entraînent les femmes et...
Non, mais non, parce que tu as des violences aussi entre femmes.
Ouais.
Ça commence par un suicide.
Ouais, on sait bien, Maryse, que les prédateurs, c'est quand même plus les hormones, c'est quand même les hommes.
Alors, quoi, je vais te dire une chose. Les hommes, ils sont élevés par des hommes et des femmes. Donc, je n'exclus jamais la femme là-dedans. Je ne peux pas dire l'homme est responsable. Et je t'assure que, contrairement à ce que tu penses, il y a énormément aussi de maltraitantes. Parce que là, on parle d'agression sexuelle, mais tu as aussi la maltraitance qui est à la limite, des fois, de la torture. Hein. Mmh. Et ça, je peux te dire que c'est femme comme homme. Moi, j'ai une solution quand même, et j'y tiens, et c'est vraiment très, très court. On en parlait un petit peu en antenne. Il faut que les institutions commencent, elles aussi, à engager des poursuites, parce que c'est trop dur pour les victimes. Je donne un exemple précis dans le cas du témoignage de Sarah, l'une des 5 jeunes filles, donc violée par un athlète de l'équipe de France. Eh bien, cet athlète qui est pensionnaire de l'INSEP, qui est très accusé d'ailleurs dans ce témoignage, eh bien peut se porter plainte contre peut se porter partie civile contre l'athlète. Une fédération peut se porter partie civile. C'est tellement plus facile que de laisser l'athlète ou le sportif ou le jeune débrouiller. Tout seul. J'ai le cas d'un jeune de mon club qui a été agressé sexuellement en pôle espoir, donc en sport études, par un surveillant du sport études. Le sport études doit se porter partie civile et non pas se contenter de renvoyer la personne.
Emma, merci beaucoup. Maryse, merci également, puisque c'était ton cri du cœur, on va le préciser quand même. Donc le documentaire est très facile à visionner. Vous allez sur internet, vous tapez suite YouTube, Emma Oudiou éventuellement, si jamais vous ne trouvez pas du premier coup. Et donc le documentaire est disponible gratuitement. Merci beaucoup, Emma.
Merci beaucoup.
Et bravo pour ton travail.